On m'a tendu la perche tout à l'heure. Vous venez de me tendre la perche sur la question du conflit. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du conflit. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur du conflit. Et quand tout à l'heure, notre collègue a expliqué, ben, finalement, c'est quoi la démocratie participative? Est-ce que c'est pour produire du consensus ou pour produire de la citoyenneté? Personnellement, je n'hésite pas une seconde, c'est pour produire de la citoyenneté. Et qui dit produire de la citoyenneté dit assumer qu'il y a des conflits, qu'il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, des portes qui claquent de temps en temps. Et tout l'enjeu, c'est de transformer les conflits qui peuvent être négatifs, et à ce moment-là, on va vers le populisme et vers la contre-démocratie au sens de Rosan Vallon, en conflits positifs, c'est-à-dire des conflits qui, à un moment donné, sont porteurs de revendications, ce qu'on appelle les mouvements sociaux, pour le dire très très vite. Mais je pense que, un, il ne faut pas avoir peur du conflit. Deux, peut-être pas se focaliser sur la prise de décision, hein, comme si la démocratie participative, la participation, c'était forcément la participation à la décision. Hein. Il y a d'autres formes de participation. Il y a la consultation, il y a le contrôle. Ça a été évoqué ce matin. Il y a le simple fait de construire une vision commune. Lorsque, aujourd'hui, des territoires sont en reconversion, je pense à ma bonne ville de Liège, vous avez un groupe de redéploiement économique qui se fait, eh bien, voilà, il y a des entreprises, des associations, etc., qui pensent quel est le plan stratégique pour Liège, pour la région de Liège, dans 10 ans, dans 20 ans. Ils n'ont pas été fort loin dans la démocratie participative, mais il y a eu une intelligence collaborative territoriale. Et donc, là, ce n'est pas une prise de décision, c'est quelle vision commune est-ce qu'on a de notre territoire, de nos problèmes. Ça vaut pour Bruxelles, évidemment, pour Liège, pour même un pouvoir plus local ou plus rural. Troisième possibilité, qui n'est à nouveau pas des prises de décision, c'est de travailler sur des projets communs, travailler sur des projets tout à fait concrets, commun. Quand j'étais directeur du Centre pour l'égalité des chances, il y a des expériences extrêmement intéressantes sur le chômage des jeunes issus de l'immigration, donc lutte contre les discriminations, où on a rassemblé dans les mêmes villes le Forum ou Actiris, Forum en Wallonie, les entreprises locales, les centres régionaux d'intégration, enfin toute une série d'acteurs pour essayer de voir mais qu'est-ce qu'on ferait bien, hein, et d'essayer de porter des projets, voire demander à ce que ces projets soient financés, aller trouver le politique pour le faire. Voilà, deux autres, encore quelques brèves, tout à fait brèves remarques. Je pense que qu'il ne faut pas négliger deux aspects positifs de la démocratie participatives qui ont été dites, mais je pense qu'ils sont peut-être encore plus importants que la codécision, par exemple. C'est un, la question de l'inclusion, éviter l'underground citoyen, donc les jeunes, les femmes, les populations issues d'immigration, etc. Deuxièmement, me semble-t-il, un effet positif qu'il faut développer, c'est l'idée de l'hybridation, du décloisonnement. On est dans une société bloquée, on est dans une société où les différents groupes ne se parlent pas, ne se connaissent pas. La démocratie participative, pour moi, est une manière de décloisonner et d'hybrider. Et de cette manière-là, on ne se focalise pas trop sur la question de la représentativité. Si l'idée, c'est comment est-ce qu'on va bien décloisonner, comment est-ce qu'on va bien faire parler des gens qui d'habitude ne parlent pas, la question de la représentativité, la proportionnalité, ces questions deviennent secondaires. D'une manière générale, et je termine par là, si on pense la démocratie participative, comme ça peut-être était un peu le cas à l'une ou l'autre occasion, même si on a essayé de ne pas le faire, si on pense la démocratie participative en termes de capacité décisionnelle, un, et deux, en termes de représentativité, alors on fait, je pense, une grosse erreur, c'est-à-dire qu'on va penser la démocratie participative dans le cadre de la démocratie représentative. On va singer, on va avoir les mêmes cadres de pensée, la décision, la représentation, la présentation, la décision, et à ce moment-là, eh bien, il n'y aura pas de bonne articulation avec la démocratie représentative, alors que, si j'ai bien compris, c'est le but de ce colloque. Voilà, je vous remercie en m'excusant d'avoir été un peu long.
Merci beaucoup pour ces commentaires, ces ouvertures aussi, qui viennent en conclusion de la journée. La parole est encore une fois à vous dans la salle pour vos propres commentaires et vos propres conclusions avant que je ne vous invite avec les autres membres du bureau du Parlement à notre cocktail de Nouvel An qui est en même temps le drink de clôture. Donc on a fait ça. C'est bien joué. Voilà. Donc la parole est à vous. Si vous voulez encore partager quelque chose avec nous. Nous avons encore 5 minutes.
Je dois me servir du micro. Je voudrais demander à M. Delruel, c'est ça, je ne vous connais pas très bien, si le genre d'événement qui s'est produit au Heysel il y a quelques années, ou il n'y a pas très longtemps, où on a réuni 3-4 000 personnes qui pouvaient donner leur avis au sujet de problèmes de politique. Est-ce que c'était la participation représentative ou la représentation ? Je ne sais pas l'autre. Mais je ne me souviens plus très bien de cet événement-là, mais ça en avait marqué.
On prend plusieurs questions.
Je
répondrai. Merci. Je répondrai.
C'est juste pour poser une question à Monsieur le Président. Le matin, j'ai suivi la présentation de Monsieur David Ferrel. Je voudrais savoir si ce modèle ou expérience irlandaise peut être applicable en Belgique en général et à Bruxelles en particulier.
Oui, deux précisions. La première, c'est que ce qui s'est passé au G1000, il y avait effectivement la proposition du G-Off, qui était une espèce de G1000 prêt à porter pour des associations, pour des comités de quartier, pour des personnes qui se réunissaient à l'extérieur de Tour et Taxi, pour préciser là, et qui pouvaient donc suivre et interagir avec les questions qui étaient posées à Tour et Taxi, et donner eux-mêmes leurs réponses. Mais là, il y avait une troisième dimension, qui était le G-Home, c'est-à-dire la possibilité pour des personnes individuelles ou des familles, ou je ne sais pas, d'interagir avec le G1000 au départ de leur maison et via Internet. Et ça vaudrait la peine, effectivement, de bien analyser, et ça a été fait, ce qui s'est passé à Tour et Taxi, ce qui s'est passé dans les petites salles de quartier et ce qui s'est passé dans les maisons. L'autre précision que je voulais apporter, et pour renforcer ce que disait M. Delruel, c'est que le Parlement wallon, eh bien, ce n'est que depuis 7 semaines que le projet de la réforme, enfin plutôt que la réforme de l'État, est atterri au Parlement wallon. Parce que le débat était largement, je ne dirais pas confisqué, mais mis en rétention au niveau technique et au niveau des partis, etc. Et ce n'est qu'à partir de maintenant qu'effectivement le Parlement va pouvoir se saisir des enjeux et de la mise en œuvre de cette 6e réforme. Et c'est pour dire qu'il n'y a pas que la démocratie participative qui pose question. La représentative, je trouve, sérieusement obérée dans son fonctionnement. Voilà, ça c'était pour les précisions. Merci.
Merci. D'autres intervention, Monsieur Delruel.
Oui, enfin, je ne veux pas reprendre la parole, parce que si vous voyez que si on me la donne, j'ai un peu de mal à la rendre encore une fois, parce que je peux être intarissable. Non, donc, enfin, je pense que vous avez répondu partiellement à madame. Moi, j'ai écrit des au moment du G1000, je faisais des petites chroniques à l'RTB, et j'ai pas été très gentil avec le G1000. Oui, mais vous savez, bon, c'était le genre aussi. C'est aussi une forme de démocratie tribunicienne quand on a la possibilité. Oui, et j'avais un peu, notamment ce sentiment-là, c'est d'avoir voulu un peu singer quelque chose comme une démocratie représentative, de faire une sorte de petit gouvernement, de petit parlement, etc. Ça, c'était un. Et deuxièmement, c'était quand même qu'à un moment donné, la politique, c'est quand même des rapports de force. Et que ces rapports de force, il faut essayer de les aménager, évidemment, parce que sinon, ça se termine comme en Syrie. Donc il faut évidemment aménager les rapports de force. Et qu'évidemment, cette dimension consensuelle du G1000 me posait un problème par rapport à la nature même du politique. En fait, c'était ça l'objet de mes petites critiques. Maintenant, c'était en plein processus, et je dois dire, et ce que vous dites me confirme, que j'ai un avis beaucoup plus positif aujourd'hui, quand je vois le processus, ce que l'on peut en dégager de positif, etc. Il y avait peut-être aussi, à ce moment-là, par rapport à la situation politique qui était compliquée, quelque chose qui était à la fois très sympathique et puis qui pouvait, comme d'autres initiatives, avoir un penchant un peu, peut-être un peu populiste. Voilà. Mais je reviens en grande partie sur ces critiques et je reconnais l'intérêt. D'une manière générale, je crois que la démocratie participative, c'est son intérêt, c'est qu'elle a des formes multiples. Et je crois que ça, on l'a bien vu aujourd'hui, hein, que c'est à la fois des initiatives comme celle de l'Irlande. Et alors là, il faudrait dire, parce que ça, c'est, je pense, un élément que je n'ai pas dit, qui pourtant est important de dire. Je pense qu'on voit que la démocratie participative, elle devient presque indispensable dans les moments de crise. Lorsque vous avez, c'était le cas de l'Irlande, ça c'est tout à fait clair, lorsque vous avez dans certaines régions une reconversion industrielle, un site qui ferme, je pense à Athus dans le Luxembourg, eh bien le Luxembourg s'est mobilisé, toutes les forces vives se sont mobilisées, on a été jusque dans le tissu social assez fin pour se mobiliser. Et à ce moment-là, la démocratie participative, elle devient presque indispensable. Sinon, il n'y a plus aucune légitimité et personne ne sait ce qu'il a à faire. Et à ce moment-là, le politique, avec sa légitimité, ne suffit pas, en quelque sorte. Alors, évidemment, ce qu'il y a, c'est plutôt que d'attendre les crises, essayons peut-être d'inventer. Mais je pense que les expériences de démocratie participative sont extrêmement diverses. Elles prennent des formes extrêmement différentes. Selon les régions, selon les pays, selon les situations, selon les questions que l'on pose, c'est sans doute la faiblesse de la démocratie participative et sa force.
Alors, la question de madame aussi, à laquelle vous n'avez pas répondu.
Je pensais avoir répondu à...
Oui. J'avais ça en tête, mais je ne savais plus si c'était Touré Taxi. C'était bien Touré Taxi.
C'était Touré Taxi.
Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Enfin, 1000, enfin, 700, oui.
C'était,
enfin, pas tout à fait 1000.
C'était Touré Taxi.
Oui, oui, voilà. C'était Touré Taxi.
Merci donc, beaucoup. Alors, pour monsieur, et j'en profite alors pour conclure les discussions, merci de me donner cette occasion en même temps que la réponse. Monsieur Delruel vient de le dire, une expérience n'est pas l'autre, et donc appliquer ou implémenter un modèle, le modèle irlandais en l'occurrence, ici ou ailleurs. Je pense qu'il faut chaque fois utiliser la culture locale, voir un petit peu la maturité des esprits aussi. Je crois qu'un des objectifs de ce colloque, et je me réjouis d'ailleurs que ce matin, c'est peut-être pas le cas maintenant en fin de journée, mais ce matin, il y avait l'ensemble des partis politiques qui étaient représentés ici. Mes collègues étaient venus en nombre, ils ont tous voulu participer. Pour moi, c'est un signe encourageant, parce qu'une des difficultés que nous avons peut-être en Belgique, c'est que la participation ne fait pas partie de nos traditions, en tout cas dans les institutions installées dans nos nombreux parlements. Et donc je crois qu'un des enjeux que nous avons collectivement, c'est de casser certaines images qui font peur aux élus, qui font peur aux institutions, pour précisément ouvrir un peu les portes et les fenêtres et faire entrer la participation dans nos traditions, à la fois de décision, mais aussi de les autres formules qu'on a citées ce matin, puis que vous avez rappelées tout à l'heure, la concertation, la consultation, la construction d'un modèle et d'une vision commune, etc. Je profite de la question qui citait M. Farrell pour le remercier d'être venu de son pays pas si lointain, mais de nous rendre quand même visite aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci aussi à M. Blondiot qui a fait le déplacement. Merci à l'ensemble des intervenants de l'après-midi et du matin sous la houlette et l'organisation parfaite de mes voisins, M. Rochand et M. Pilet. Merci encore à toutes celles et tous ceux qu'on n'a peut-être pas vus, mais qui ont contribué à la bonne organisation de nos travaux. Donc il y aura une suite. Certains m'ont demandé s'il y avait une suite ou si on pouvait avoir une trace écrite de ce qui a été dit. On va collecter, tout ce qui a été dit aujourd'hui a été enregistré, donc on va essayer de faire un compte-rendu synthétique de l'ensemble, et on mettra ça en ligne dès que possible pour que les uns et les autres puissent encore s'en inspirer. Voilà, mille merci encore, et je vous invite alors au drink dans la salle des glaces qui se trouve au premier étage de ce bâtiment. Voilà, mille merci encore.